2. Autre version de l'histoire. J'ai choisi de donner la version ci-dessus comme ayant la trame narrative la plus complète. Mais il y a bien d'autres écrits qui portent sur ces événements, ajoutant ou modifiant le récit sur des points importants. Ces manuscrits sont déroutants et leurs relations sont obscures, bien qu'ils proviennent tous indubitablement de la même période, et cela suffit pour souligner l'existence de deux autres récits primaires, outre celui qu'on vient de lire, appelé ici par commodité A. Une seconde version B est quasiment conforme à A quant à la structure narrative, mais une troisième, C, qui se présente sous forme d'un schéma dramatique débutant à un moment plus tardif de l'histoire, introduit des différences notables. Et j'ai tendance à penser que pour ce qui est de l'ordre de la composition, ce récit est le dernier en date. En outre, il existe des matériaux, D, qui s'intéressent plus particulièrement au rôle de Gollum dans les événements. Et enfin d'autres notes portant sur cette partie de l'histoire. D explique que les révélations faites par Gollum au sujet de l'anneau et du lieu où il fut trouvé suffirent pour prouver à Sauron qu'il s'agissait effectivement de l'anneau unique. Mais quant au sort actuel du dit anneau, Sauron put seulement découvrir qu'il avait été volé par une créature du nom de Bessac dans les montagnes de brume et que ce Bessac était originaire d'un pays appelé le Comté. Les craintes de Sauron furent considérablement apaisées lorsqu'il comprit, d'après le récit de Gollum, que Bessac devait être une créature de même espèce. Je cite. Gollum ne pouvait connaître le terme « hobbit », qui était une appellation locale et non d'usage général en occidentalien. Il n'aurait probablement pas utilisé « demi-homme » en étant un lui-même, et les hobbits n'aimaient pas ce nom. C'est pourquoi les cavaliers noirs semblent n'avoir eu que deux principaux éléments d'information, le comté et Bessac. Selon tous les récits, il semble clair que Gollum savait au moins dans quelle direction se trouvait le comté. Mais bien que sous la torture, on aurait certainement pu en arracher plus long, Sauron n'avait manifestement pas idée que Bessac venait d'une région fort éloignée des montagnes de brume, ni que Gollum savait où était cette région, et il pensait pouvoir trouver Bessac dans le val de Landuin, la même contrée où Gollum lui-même avait autrefois vécu. Mon père écrit « Une erreur minime et très naturelle, mais probablement une erreur fatale, la plus grave qu'ait faite Sauron dans toute l'affaire. Si ce n'avait été cette erreur, les cavaliers noirs auraient atteint le comté des semaines plus tôt. » Dans le texte B, on en apprend plus sur le voyage d'Aragorn avec son prisonnier Gollum vers le royaume de Thranduil au nord. Et on considère plus longuement les motifs qui font hésiter Sauron à employer les spectres de l'anneau dans la quête de l'anneau. Après avoir été relâché du Mordor, Gollum disparut bientôt dans les marais morts, où les émissaires de Sauron ne pouvaient ou ne voulaient pas le suivre. Et aucun autre de ses espions ne pouvait le renseigner. Sauron n'avait probablement à l'époque qu'un pouvoir restreint sur l'Eriador et fort peu d'agents dans les parages. Et ceux qui l'y envoyaient étaient souvent entravés dans leur action ou induits en erreur par les serviteurs de Saruman. C'est pourquoi il se décida enfin d'utiliser les spectres de l'anneau. Il avait longtemps hésité à le faire tant qu'il ne sut pas exactement où se trouvait l'anneau. Et ce pour plusieurs raisons. Ils étaient de beaucoup les plus puissants de ses serviteurs et les plus aptes à une telle mission, étant entièrement asservis aux 9 anneaux que Sauron détenait désormais. Et ils étaient parfaitement incapables d'agir contre sa volonté, et si l'un d'eux, même le roi sorcier, leur capitaine, avait trouvé l'anneau unique, il l'aurait rapporté à son maître. Mais leur utilisation comportait des désavantages, au moins jusqu'au début de la guerre ouverte, et Sauron n'était pas encore prêt pour cela. Tous, hors le roi sorcier, avaient tendance à s'égarer lorsqu'ils étaient seuls en plein jour. Et tous, toujours à l'exception du roi sorcier, craignaient l'eau et répugnaient, sauf besoin urgent, à guetter ou à traverser une rivière, sauf à pied sec sur un pont. De plus, leur arme principale était l'effroi, d'ailleurs plus puissant encore lorsqu'ils étaient à nu et invisibles, mais aussi lorsqu'ils allaient de compagnie. de sorte qu'il n'y avait guère moyen de les envoyer pour une mission qui exigeait le secret. Et le passage de l'Anduin et d'autres rivières formait obstacle. Pour toutes ces raisons, Sauron hésita longtemps, peu désireux que la mission confiée à ses serviteurs vienne aux oreilles de ses principaux ennemis. On doit supposer qu'au début, Sauron ne savait pas que, hormis Gollum et ce voleur de Bessac, d'autres avaient eu connaissance de l'anneau. Jusqu'à ce que Gandalf vînt et le questionna, Gollum, lui, ignorait que Gandalf avait eu le moindre rapport avec Bilbo, et l'existence même de Gandalf lui était inconnue. Mais lorsque Sauron apprit que Gollum avait été fait prisonnier par ses ennemis, la situation se trouva radicalement modifiée. Quand il sut la chose, et comment, nous ne pouvons bien entendu le déterminer avec certitude, probablement longtemps après l'événement lui-même. Selon Aragorn, Gollum fut pris à la tombée de la nuit le premier jour de février. Espérant échapper aux espions de Sauron, il conduisit son prisonnier par l'extrémité nord des Éminmuil et traversa l'Anduin juste au-dessus de Sarn-Ghébir. En cet endroit, les bois de flottage s'échouaient souvent sur les hauts fonds de la rive est, et ligotant Gollum à un rondin, Aragorn traversa le fleuve à la nage avec son prisonnier. Il continua son voyage vers le nord, en prenant des pistes aussi à l'ouest que possible, longeant la rivière de Fangorn, et franchissant la Lime Claire, puis la Nimrodel et l'Argentine, et ainsi jusqu'aux confins de la Lorienne. De là, il poursuivit, évitant la Moria et le Val de Ruisselombre, puis il passa la rivière aux Flambes et gagna les abords du Carroc. Là, il retraversa l'Anduin avec l'aide des Béorniens et s'enfonça dans la forêt. Un long voyage à pied qui s'étendait en tout sur près de 900 milles, et qu'Aragorn accomplit d'une traite mais fourbue en 50 jours, atteignant Thranduil le 21 mars. Ainsi, il est fort probable que les premières nouvelles de Gollum parvinrent aux serviteurs de Dol Guldur après qu'Aragorn eut pénétré dans la forêt. Car bien que l'autorité de Dol Guldur cessa, à ce qu'on croyait, de s'exercer au-delà de la vieille route de la forêt, ses espions couraient nombreux les bois. Manifestement, il se passa un certain temps avant que le commandant Nazgûl de Dol Guldur apprit la chose, et sans doute n'en informa-t-il Barad-dûr qu'après avoir recueilli plus de précisions sur l'endroit où se trouvait Gollum. C'est probablement seulement vers la fin avril que Sauron sut qu'on avait vu Gollum captif, apparemment dans les mains d'un homme. Une nouvelle qui put lui sembler sans importance. Ni Sauron ni ses serviteurs n'avaient encore entendu parler d'Aragorn ou ne savait qui il était. Mais de toute évidence, plus tard, car les terres de Thranduil devaient être à présent surveillées de près, peut-être un mois plus tard, Sauron reçut la nouvelle autrement inquiétante que les sages étaient au courant pour Gollum et que Gandalf s'était rendu au royaume de Thranduil. Et alors Sauron dut être furieux et inquiet, et il se résolut d'utiliser les spectres de l'anneau dès que possible, car dès lors, seul comptait la rapidité d'action et non plus le secret. Espérant jeter le désarroi parmi ses ennemis et troubler leur dessein par la peur de la guerre, qu'il ne comptait faire que bien plus tard, Sauron attaqua Thranduil et le Gondor presque simultanément. Il avait deux objectifs supplémentaires, capturer ou tuer Gollum, ou du moins en priver ses ennemis, et forcer le passage du pont d'Osgiliath afin que les Nazgûl puissent traverser tout en mettant à l'épreuve la résistance du Gondor. Il se trouve que Gollum s'échappa, mais le passage du pont s'effectua. Les forces mises en œuvre furent sans doute bien moins considérables que ne le croyaient les hommes du Gondor. Dans la panique créée par le premier assaut, lorsque le roi sorcier fut autorisé à se révéler brièvement et dans toute son horreur, les Nazgûl franchirent le pont de nuit et se dispersèrent vers le nord. Sans déprécier la vaillance du Gondor, que Sauron trouva d'ailleurs bien plus grande qu'il ne l'avait espéré, il est clair que si Boromir et Faramir purent repousser l'ennemi et détruire le pont, c'est seulement parce que le principal objectif de l'attaque avait été atteint. Mon père n'explique nulle part cette peur de l'eau qu'il attribue au spectre de l'anneau. Dans le récit cité à l'instant, cette peur est donnée comme principal motif de l'assaut lancé par Sauron contre Osgiliath, et elle réapparaît dans diverses notes détaillées sur les mouvements des cavaliers noirs en comté. Ainsi, il est dit du cavalier, Camul, de Dol Guldur, aperçu sur la berge opposée au bac de Ferthébouc, juste après la traversée des Hobbits, la Fraternité de l'Anneau 1-5, qu'il savait bien que l'anneau avait traversé la rivière, mais qu'une rivière faisait obstacle à la perception de ses mouvements, et que les Nazgûl se refusaient à toucher les eaux elfiques du Barrenduin. Mais rien ne précise comment ils s'y prirent pour traverser les autres rivières qui se trouvaient sur leur chemin, telles le Griffleur, là où il n'y avait qu'un semis de ruines sur des terrassements à moitié écroulés et un gué dangereux formé par les pierres éboulées du pont. Mon père a d'ailleurs noté que l'idée était difficile à soutenir. Le récit de la vaine expédition des Nazgûl le long du Val de Lundwin est sensiblement identique dans la version B à celui publié en entier ci-dessus, A. À la différence près que dans la version B, les habitations des Forteaux ne sont pas, à l'époque, entièrement abandonnées. Les quelques Forteaux qui y vivent encore sont tués ou chassés par les Nazgûl. Dans tous les textes, les dates données varient légèrement entre chacune des versions et avec celles données dans le compte des années. Et je n'ai pas tenu compte de ces minimes divergences. Dans la version D, on trouve le récit de ce qui arrive à Gollum après avoir échappé aux orques de Dol Guldur et avant que la Fraternité ne pénètre dans la Moria par la porte ouest. Il s'agit d'un brouillon préparatoire qui a requis quelques remaniements en vue de sa publication. Il semble clair que, poursuivi et par les elfes et par les orques, Gollum traversa Landuin, probablement à la nage, et ainsi esquiva la traque de Sauron. Mais toujours pourchassé par les elfes, et n'osant pas encore passer près de la Lorienne, une audace qu'il ne devait acquérir que plus tard, mû par la convoitise de l'anneau, il se cacha en Moria. Cela se passait probablement à l'automne de la même année, après quoi on perd toute trace de lui. Bien entendu, on ne peut déterminer avec certitude quel fut alors son sort. Il était tout particulièrement apte à survivre en de si dures circonstances, bien qu'au prix d'une extrême souffrance. Mais il risquait fort d'être découvert par les serviteurs de Sauron qui rôdaient en Moria, d'autant plus qu'il ne pouvait se procurer de quoi subsister qu'en volant, et donc au prix de graves dangers. Dans la Moria, il n'avait certainement vu qu'un passage secret vers l'ouest, son but étant de découvrir lui-même le comté dès qu'il le pourrait. Mais il s'égara et fut longtemps sans retrouver son chemin. Et il venait à peine, semble-t-il, de trouver la voie vers la porte ouest, lorsque y entrèrent les 9 marcheurs. Et il ignorait tout, bien entendu, du mécanisme des portes. Elles ne pouvaient que lui paraître énormes et inébranlables. Et bien qu'il n'y eût ni loquet ni barre, et qu'elles s'ouvrissent vers l'extérieur d'une simple poussée, il ne s'en était pas avisé. De toute manière, il se trouvait à présent fort loin de toute source de nourriture, car les orques gîtaient principalement du côté est de la Moria, et Gollum était affaibli et abattu, de sorte que même s'il avait su comment manipuler les portes, il aurait été incapable de les pousser pour les ouvrir. La survenue des 9 marcheurs fut donc pour lui une chance inespérée. Le récit de l'arrivée des Cavaliers Noirs à Isengard en septembre 3018 et leur capture ultérieure de Grima Langue de Serpent, donnée dans les versions A et B, se retrouve, mais très modifié, dans la version C, qui reprend le fil du récit seulement au retour des cavaliers vers le sud lors de leur passage de la Lime Claire. Dans les versions A et B, les Nazgûl surviennent à Isengard 2 jours après que Gandalf s'est évadé d'Orthanc. Saruman leur dit que Gandalf est parti et nie avoir connaissance du comté. Mais il est trahi par Grima, que les cavaliers capturent le lendemain sur le chemin qui mène à Isengard, où celui-ci se rendait en toute hâte porter à Saruman la nouvelle de la venue de Gandalf à Edoras. Mais dans la version C, lorsque les cavaliers noirs arrivent à la porte d'Isengard, Gandalf est encore prisonnier dans la tour. Dans ce dernier récit, Saruman, pris de terreur et de désespoir, et percevant toute l'horreur qu'implique de servir le Mordor, se résout soudain à céder face à Gandalf et à le supplier de lui accorder son pardon et son aide. Pour gagner du temps à la porte, il admet qu'il détient Gandalf à l'intérieur et dit qu'il va s'efforcer de lui tirer ses secrets, et que s'il n'y parvient pas, il leur livrera le prisonnier. Sur ce, Saruman monte en toute hâte au sommet d'Orthanc et trouve Gandalf parti. Au loin, vers le sud, contre la lune à son déclin, il aperçoit un grand aigle qui vole vers Edoras. Or, la situation de Saruman est désormais bien pire. Si Gandalf s'est échappé, c'est qu'il y a encore une chance réelle d'empêcher Sauron de s'emparer de l'anneau et de le vaincre. Dans son cœur, Saruman reconnaît les grands pouvoirs et la singulière heureuse chance qui accompagne Gandalf. Mais à présent, il reste tout seul face au neuf. Et son humeur change brusquement, et son orgueil reprend le dessus, attisé par l'évasion de Gandalf, de l'inexpugnable Isengard, et par un accès de jalousie furieuse. Il retourne à la porte, et il ment, affirmant qu'il a fait avouer Gandalf. Il n'admet pas que ses dires sont de son propre cru, ignorant ce que Sauron peut pénétrer de son esprit et de son cœur. « Je ferai moi-même rapport de cela au seigneur de Barad-dûr, » dit-il avec hauteur, « car je m'entretiens avec lui à distance des choses graves qui nous concernent l'un et l'autre. Mais tout ce qu'il vous importe de savoir, touchant la mission qu'il vous a confiée, est la position du comté. Et selon les dires de Mithrandir, le comté se trouve au nord-ouest, à environ 600 milles d'ici, à la frontière des terres elfiques des bords de mer. » À son grand plaisir, Saruman note que même le roi sorcier goûte peu cette perspective. « Vous devez franchir l'Isen par les Gués, et ensuite contourner la pointe des montagnes pour passer le Griffleur à Tharbad. Faites diligence, et je rendrai compte à votre maître de votre départ. » Sur l'instant, ce discours habile convainc même le roi sorcier que Saruman est un allié fidèle et fort dans la confidence de Sauron. Les cavaliers tournent bride aussitôt et partent au galop dans la direction des Gués de l'Isen. À leur suite, Saruman envoie des loups et des orques dans le vain espoir de rattraper Gandalf, et aussi aux fins de manifester ses pouvoirs aux yeux des Nazgûl et peut-être de les empêcher de traîner dans les parages. Et souhaitant, dans sa colère, nuire au Rohan et accroître la peur qu'il inspire et que son agent Langue de Serpent a à charge de développer dans le cœur de Théoden. Langue de Serpent s'est rendu à Isengard peu auparavant, et en ce moment même, il se trouve sur le chemin d'Edoras. Et parmi les créatures de la traque, certaines portent des messages à lui destinés. Une fois débarrassé des cavaliers, Saruman se retire dans Orthanc et se livre à une méditation sérieuse et remplie d'effroi. Il décide, semble-t-il, de temporiser encore et de persister dans sa propre quête de l'anneau. Envoyer les cavaliers en direction du comté, songe-t-il, est de nature à entraver plutôt qu'à favoriser leur entreprise, car Saruman sait que les coureurs sont en alerte, et il croit également, car il est au courant des paroles prophétiques entendues en rêve et de la mission de Boromir, que l'anneau est parti et qu'il est déjà sur le chemin de Fandeval. Et incontinent, il rassemble ses gens et envoie en Eriador tous les espions, oiseaux espions et agents qu'il peut réunir. Dans cette version, manque donc l'épisode de la capture de Grima par les spectres de l'anneau et de sa trahison de Saruman. Car bien évidemment, il n'y a pas ici temps suffisant pour permettre à Gandalf d'atteindre Edoras afin de tenter d'avertir le roi Théoden et à Grima de repartir à son tour pour Isengard afin d'avertir Saruman, tout cela avant que les cavaliers noirs aient passé hors du Rohan. Le mensonge de Saruman leur est révélé ici par le truchement de l'homme qu'il capture en chemin et qu'il trouve porteur de cartes du comté. Et on en apprend un peu plus long sur cet homme et sur les relations de Saruman avec le comté. Quand les cavaliers noirs eurent progressé loin dans l'Enedweth, et tandis qu'ils approchent enfin de Tharbad, survient pour eux cet heureux hasard qui devait être désastreux pour Saruman et mortellement dangereux pour Frodo. Saruman s'intéressait depuis longtemps au comté, parce que Gandalf s'y intéressait et qu'il se méfiait de tous ses gestes. Et parce que, de nouveau en secrète imitation de Gandalf, il avait contracté l'habitude de la feuille des demi-hommes et avait besoin de s'en procurer. Mais par orgueil, s'étant une fois moqué de Gandalf pour son goût de fumée, il s'efforçait de s'en cacher. Et d'autres motifs étaient venus plus récemment s'ajouter. Il aimait étendre ses pouvoirs et tout particulièrement sur les domaines spécifiques à Gandalf, et il découvrit que l'argent qu'il prodiguait pour l'achat de la feuille lui était source de pouvoir, et corrompait certains hobbits, notamment les serres-ceintures, qui possédaient de nombreuses plantations, et par la même occasion, les Bessac d'Escarcelle. Mais il avait acquis par ailleurs la certitude que d'une manière ou d'une autre, le comté était lié à l'anneau dans l'esprit de Gandalf. Sinon, pourquoi cette importante surveillance alentour ? C'est ainsi qu'il se mit à recueillir des informations détaillées sur le comté, ses notabilités et ses familles principales, ses routes et autres aspects. Pour ce faire, il avait recours à des hobbits à l'intérieur du comté, aux gages des serres-ceintures et des Bessac d'Escarcelle, mais ses agents étaient des hommes, et toujours d'origine dunlandaise. Lorsque Gandalf refusa de traiter avec lui, Saruman redoubla ses efforts. Les coureurs étaient méfiants, mais ils ne s'opposèrent pas à l'entrée de ses serviteurs, car Gandalf n'était pas libre de les avertir, et lorsqu'il partit pour Isengard, Saruman avait encore statut d'allié. Peu de temps auparavant, un des serviteurs les plus fidèles de Saruman, et pourtant une ville brute, un hors-la-loi chassé de la Dunland, où beaucoup disaient qu'il avait du sang d'orque, était revenu des frontières du comté, où il avait négocié l'achat de la feuille et autres fournitures. Saruman, en effet, commençait à approvisionner Isengard dans l'éventualité d'une guerre. Cet homme retournait donc en comté pour suivre les affaires et organiser le transport de nombreuses marchandises avant la fin de l'automne. Il avait aussi ordre de pénétrer en comté, si possible, pour y apprendre s'il y avait eu des départs récents de gens de quelque notoriété. Il était bien fourni en cartes, listes de noms et notes concernant le comté. Plusieurs cavaliers noirs rattrapèrent ce Dunlandais comme ils approchaient du gué de Tharbad. Ils le traînèrent, au comble de l'effroi, devant le roi sorcier et l'interrogèrent. Il sauva sa vie en trahissant Saruman. Le roi sorcier apprit ainsi que Saruman savait depuis longtemps où se trouvait le comté et qu'il en savait beaucoup à ce sujet, ce qu'il aurait pu et aurait dû dire aux serviteurs de Sauron s'il avait été un allié véritable. Et il obtint également quantité d'informations, entre autres au sujet du seul nom qui l'intéressait, Bessac. C'est pour cette raison que Hobbitville fut désigné comme un des lieux à immédiatement visiter et où mener l'enquête. À présent, le roi sorcier concevait mieux la situation. Longtemps auparavant, lors de ses guerres contre les Dunedain, il avait appris à connaître quelque chose de ce pays, et plus particulièrement des Tilngorthad du Cardolan, appelés désormais les Coteaux des Tertres, où il avait lui-même posté des esprits maléfiques. Comprenant que son maître soupçonnait quelques tractations entre le comté et Fandeval, il perçut également que Bri, dont la localisation lui était connue, serait un point important, au moins comme centre d'information. Alors il plaça le Dunlandais sous l'ombre de la peur et l'envoya à Bri comme son agent. C'est lui, l'homme du sud aux yeux louches de l'auberge. Dans la version B, il est précisé que le noir capitaine ignorait si l'anneau se trouvait encore dans le comté. De cela, il devait s'assurer. Le comté était trop vaste pour une violente prise d'assaut, comme il avait fait avec les Forteaux. Il lui fallait faire preuve de discrétion et user aussi peu de la terreur qu'il le pouvait, et veiller également à la garde des frontières orientales. C'est pourquoi il envoya un groupe de cavaliers dans le comté, avec ordre de se disperser lors de la traversée du pays. Et l'un d'eux, Camul, était chargé de repérer Hobbitville, où vivait Bessac, d'après les documents de Saruman. Mais le noir capitaine établit un camp sur l'Andrath, là où le chemin vert s'engage dans un défilé entre les coteaux des Tertres et les coteaux du Sud. Et de là, il envoya d'autres cavaliers surveiller et patrouiller les frontières orientales, tandis que lui-même fouillait les coteaux des Tertres. Dans les notes sur les mouvements des cavaliers noirs à cette période, il est dit que le noir capitaine demeura là-haut plusieurs jours. Et s'éveillèrent les esprits des Tertres, et d'autres esprits maléfiques pétris de malveillance, hostiles aux elfes et aux hommes, étaient aux aguets dans la vieille forêt et sur les coteaux des Tertres.